Bonjour à toutes, bonjour à tous. Régis Fellu, donc je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre émission d'histoire locale. Histoire avec un grand H, mais également avec un petit H, l'histoire, la petite histoire, pas vraiment de l'histoire de France, mais l'histoire de nos ancêtres, leurs traditions, leur vie. Et cette semaine, donc, pour parler de cette histoire, je suis très heureux d'accueillir sur les ondes de Radio Vague Gérard Boutet.
Bonjour.
Gérard, donc, vous allez, je vais d'abord vous présenter un petit peu. J'ai l'habitude de présenter nos chroniqueurs, même si beaucoup de nos auditeurs vous connaissent déjà. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez eu comme parcours avant d'arriver aujourd'hui sur les ondes de Radio Vague, Gérard ? Est-ce que c'est moi qui vous présente ou est-ce que c'est vous ?
Oh, ben, je vais le faire parce que tout ce qui me concerne m'est connu.
D'accord.
Le parcours, il est bien, bien long. Pas assez, parce qu'une vie, ça va trop vite.
Hein. Vous avez eu plusieurs vies en une seule, je crois.
Ah oui, moi, j'ai eu...
Un petit peu comme le personnage dont on va parler tout à l'heure.
Oui, bon, moins aventureux quand même, mais bon, on a les aventures que l'on peut.
Voilà. Hein.
Au départ, je fais des études de publicitaire.
Oui, je crois que vous êtes un artiste un petit peu au départ.
Artiste, je suis un technicien de la publicité, de la communication visuelle.
Mais on peut parler de dessin aussi, vous avez fait.
Alors, c'était basé sur le dessin.
Ouais.
Mes humanités se sont déroulées à Corvisart, dans le 13e arrondissement.
S'il vous plaît.
C'était une très très bonne école. Mm-hmm. C'était encore l'époque du pinceau, du crayon, du papier. Hein. Ce n'était pas les tablettes actuelles. Hein.
D'accord.
Et c'était pas l'informatique. Et cette école-là, j'ai toujours gardé une nostalgie de cela, parce que non seulement on apprenait un métier, on apprenait à être habile de ses mains et affiné de ses goûts artistiques, mais aussi on nous apprenait à vivre, on nous apprenait à penser et à remettre tout en question, y compris soi-même. Et ça m'a vraiment étonné. Moi qui avais 16 ans à l'époque, je vais me permettre un ou deux petits souvenirs,
hein,
qui avait 16 ans à l'époque, qui sortait du cours complémentaire de Beaugency où il y avait le ou les maîtres et les élèves, ça veut dire quelque chose, ça, je me souviens qu'une des premières leçons que l'on a, un des premiers cours que l'on a reçu à Corvisart, à 16 ans, ça a été d'entendre un prof nous dire « Le premier d'entre vous qui aura le cran de mettre un pavé dans la gueule d'un flic sera le premier de la classe toute l'année. » Oh ! Là, ça m'a... Alors, c'était provocateur, évidemment, mais ça m'a... Pendant les 3 ans que j'ai fréquenté les arts graphiques, ça m'a modelé le caractère, et je pense que ça se retrouve dans ce que j'ai pu faire ensuite. Alors, qu'est-ce que j'ai pu faire ensuite ? Beaucoup de choses... Régis, comme je vous l'ai dit.
Oui, parce que là, je suis un petit peu tombé dans le piège de vous laisser parler, parce que notre ami Gérard, il est très bavard, donc va essayer d'accélérer un petit peu le parcours.
Alors, j'ai commencé une carrière d'illustrateur publicitaire, qui me plaisait énormément, mais nous sommes dans les débuts des années 70, fin des années 60, et c'est un métier que l'on ne pouvait exercer qu'à Paris. En province, on faisait de la réclame et non pas de la publicité. Ce qui revient à dire que ça équivalait à demander à trois gros ou à je ne sais quel grand cuisinier d'aller à Orléans faire du McDo.
D'accord.
J'ai rien contre McDo, quoi que c'est pas vrai. Mais
faire un steak frit,
c'est un exemple. Et donc c'était pas possible d'exercer mon métier. Il a donc fallu que je cherche un autre métier. Et il se trouvait que j'avais toujours aimé écrire, dessiner ou écrire. Pour moi c'est pareil. On a un crayon, un stylo, et tantôt on raconte une histoire avec des mots, tantôt avec des traits. Mais c'est un petit peu les mêmes ficelles. Donc, je suis rentré à la République du Centre.
C'est là qu'on vous a connu, oui.
Ben oui, et
il y a quelques années.
J'y ai exercé mes talents de 1973, mm-hmm. c'est-à-dire dans l'autre siècle, jusqu'à 2007. Calculé, ça,
il y a pas si longtemps, donc.
Ça fait pas mal de temps quand même. Hein. Mm-hmm. Et j'avais la chance de ne pas être journaliste événementiel, mais d'être rubricard.
Mm-hmm, chroniqueur.
Chroniqueur, mm-hmm. Voilà. Et c'est ces chroniques-là qui ont été toutes, je crois qu'il n'y en a aucune qui a été laissée dans les cartons, toutes rachetées ou adaptées par l'édition pour en faire des livres, et ça a donné les collections des Étés de leur village d'abord, puis les Gagnes Misères.
Voilà, donc ça c'est votre...
Les auditeurs peuvent se souvenir.
C'est votre casquette d'historien, voilà. De romancier, c'est un petit peu votre métier, c'est ce que vous avez en tête et ce que vous avez besoin.
C'est pas un petit peu, c'est mon métier.
Voilà, c'est ce que vous avez envie et besoin de transmettre.
Oui, et c'est mon métier, je suis un des rares, ou j'étais un des rares, je crois qu'on était 300 à l'époque, en France, à vivre de leur plume. Mmh. Et quand je dis de leur plume, je ne mets pas Zizi Jeanmaire ou Line Renaud.
D'accord.
Nous ne mettions pas nos plumes au même endroit.
Gérard, on a parlé un petit peu de ce que vous aviez publié, c'est-à-dire les collections, les Gagne-Misère, qu'on connaît tous, hein, la Belle Ouvrage, Ils étaient de leur village. Le dernier roman que vous avez publié s'appelle « Je n'ai tué ni volé ». On ne peut pas vraiment parler de roman parce que c'est de l'histoire romancée, mais c'est une histoire vraie.
C'est un récit autobiographique. Non, un récit biographique, pardon.
Récit biographique.
Dans l'énumération d'ouvrages que vous venez de faire, Régis, il y a, excusez-moi de vous le signaler, il y a un petit oubli, qui est de taille. Mmh. C'est celui du dictionnaire.
Et bien sûr.
Parce que le dictionnaire, c'est 10 ans de ma vie, quand même.
Un pavé.
C'est un pavé qui a fait du bruit hein, quand il est tombé. Effectivement, je me souviens que chez Perrin, l'éditeur de ce truc-là, le PDG présentant l'ouvrage à sa force de vente, les représentants, avait dit « Vous allez avoir à vendre un ovni de l'édition ». Et c'est vrai, je crois.
Oui, et ce qui est malheureux, c'est qu'on ne peut plus le trouver aujourd'hui. Il n'a pas été réédité.
Alors, on ne le trouve plus dans sa version première, qui était Perrin, mais on le trouve toujours dans une version dite de travail chez Omnibus.
Ok, eh ben, c'est une bonne nouvelle alors. On va maintenant parler donc, de ce dernier ouvrage que vous avez publié, et puis ben, je pense qu'on va parler du curé de Nîmes maintenant. Mm-hmm. Qui était d'abord le curé de Nîmes ? On va parler un petit peu après de son parcours, c'est-à-dire les quelques vies qu'il a eues, parce qu'en une seule vie, il en a eu 5. On va parler en détail de toute cette aventure qu'il a eue, tout ce parcours. Mais je voudrais d'abord que vous nous parliez un petit peu du personnage. Qui était-il déjà avant d'être le curé de Nîmes ?
Oui, alors, je vais vous répondre, Régis, mais avant, j'aimerais vous dire que... pendant que je travaillais à la République du Centre et pour la République du Centre, et j'y étais bien, je me suis surtout consacré au glanage des souvenirs de professions oubliées.
J'aime bien le terme glanage.
Ou disparues. Je recueillais les témoignages des gens âgés, donc dont le passage était compté. Hein. Oui. Maintenant, c'est à mon tour.
On va pas dire ça.
mais c'est ça quand même. Et donc, ça correspondait aux rubriques que j'animais, soit dans les souvenirs même de guerre, à travers la Grande Guerre, l'occupation. Je repense à ça parce que j'avais toute une série sur 14-18 et on a commémoré il y a peu le centenaire de la Grande Guerre et on parle encore de Maurice Genevoix et tout, et tant mieux. Surtout que Maurice Genevoix, que j'ai connu, a été mon parrain à la Société des gens de lettres, donc ça représente quelque chose, il représente quelque chose pour moi. Mais lorsque j'ai fait cette rubrique-là sur la Grande Guerre, c'était en 81, de l'autre siècle, bien sûr, 81, et il y avait encore des survivants. Et ça m'a permis de faire une rubrique qui est devenue un livre, plus tard chez De Noël et chez Jean-Cyril Godefroy, il y a eu plusieurs éditions, ils sont partis en chantant, et dont la principale valeur ne vient pas de moi, mais vient des témoignages que j'ai recueillis, vient des témoins que j'ai rencontrés. Mmh. Et ça, c'était une richesse inestimable. Et c'est resté inestimable. Oui. Parce que actuellement, on fait quelque chose sur la Grande Guerre, et c'est tant mieux, encore une fois, hein, le devoir de mémoire, ça compte. Mais il n'y a pas cette matière vivante première là, que j'avais, que j'ai recueillie en 80, et ça, c'est quelque chose de formidable. Pensez, Régis, qu'au début, que j'ai commencé à creuser dans la mémoire collective de l'Orléanais, je remontais à 1870. Donc c'était... En témoignage réel, mon arrière-grand-mère était née en 1840. Mon arrière-grand-mère. Et elle, 1864, pardon. 1864.
Donc elle a connu les Prussiens.
Donc elle se souvenait des Uhlans chez elle.
D'accord.
Vous vous rendez compte ? Et en témoignage direct, je remontais au tout début à 1870. Donc c'est étonnant.
C'était du côté de Jaune et puis il y a eu des combats là-bas.
J'avais généralisé mon propos parce que je ne voulais pas faire des monographies. Ça n'aurait intéressé que 20 personnes.
Donc les Gagnes-Misères, c'était déjà un petit peu...
Mais les Gagnes-Misères, c'était ça. Mais avant les Gagnes-Misères, c'était leur village. Voilà. Alors, pendant tout le temps que j'ai travaillé pour et par la République du Centre, je m'orientais vers cette recherche du témoignage et cette valorisation de la mémoire collective. Et la sauvegarde, surtout. Et bon, c'est avec un certain... Je vais pas dire... avec un certain bonheur.
La sauvegarde, c'est-à-dire la transmission du
oui,
patrimoine.
Oui, c'est ça. Que ça ne s'oublie pas. Que ça ne tombe pas dans les oubliettes du temps. Et lorsque j'ai fini cette collaboration, et de toute manière, le temps était passé, les générations s'étaient succédées, et à partir de l'an 2000, j'ai vu que je ne pouvais plus recueillir quelque chose d'intéressant dans le cadre que je m'étais fixé de mes travaux. Parce qu'on me racontait les souvenirs des années 50, or moi j'étais déjà né, c'était mes propres souvenirs qu'on me racontait, ça n'avait plus
d'intérêt. C'était pas de l'histoire assez ancienne. Donc.
Voilà, c'était plus... Et puis la société avait changé avec l'après-guerre, et on me parlait de la société dans laquelle nous vivions. Donc c'était plus dans le cadre. Et j'ai compris que là, il fallait que j'arrête mes recherches. Les derniers témoins que j'ai rencontrés, c'était hors de la région, et c'était des métiers spécifiques, comme les terre-neuvas, les pêcheurs de morue, les centeniers, les imagiers d'Épinal... et que d'autres, voilà.
Donc... Alors Gérard, je vais un petit peu vous interrompre, et avant qu'on commence à parler de notre curé de Nîmes, peut-être que c'est le moment justement, on parlait des Gagnes-Misères, et est-ce que ce ne serait pas le moment pour écouter un extrait musical sur les Mangeux de Terre ?
Oui,
est-ce
alors,
que vous pouvez nous
oui, je vais vous en parler. Alors déjà, les Mangeux de Terre, c'est un poème de Gaston Couté que vos auditeurs connaissent certainement en réputation et en talent. C'est quelqu'un qui est mort en 1911 et qui a laissé beaucoup de traces formidables. Et la plupart de ses chansons ont été adaptées en musique et interprétées par Gérard Piron, qui est un auteur et un chanteur formidable. Et les Mangeux de Terre, c'est important pour les Beaucerons qui nous écoutent. Et c'est également en lien avec ce que l'on va dire sur le curé de Nîmes qui a été perdu, qui s'est perdu en Beauce. Les Mangeux de Terre, écoutez bien, chers auditeurs, c'est un petit chef-d'œuvre et musical, et bien sûr d'écriture, dû à Gaston Couté.
Alors on écoute les Mangeux de Terre.
Jacques a dit qu'il va jouer.
En plus, avec les poules, peut-être qu'en plus, ça prendra un charme particulier. Là, on se dépêche parce que les poules, ça chante pas trop longtemps, ça se couche de bonne heure.
Je repasse tous les ans quasiment dans les mêmes parages et tout. Les ans, je trouve du changement. De dessus mon passage, à tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis, voyons si je me souviens. Voyons dans ce coin de Beauce, y avait dans le temps un vieux grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine, à cette n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas, pour que rien ne se perde. mangerin, on ne sait quoi, ces gars-là. Ils mangerin de la merde. Le chemin, c'était à leur juger. La bonne terre perdue, à chaque labou, ils l'ont mangé. Un sillon charru. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Ils ont grossi leurs arpes engoulues d'un peu de glèbe toute neuve, et le pauvre chemin en est devenu mince comme une couleuvre. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, le chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Ils ont semé du blé sur le terrain qui retire à ma roue. Et si je les en demande un bout de pain, ils m'envoient y faire foutre. Et c'est peut-être ben pour ça que jouer à mesure que ce blé monte, les épis baissent le nez devant moi comme s'ils avaient honte. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot, à cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Au mon bio petit chemin gris et blanc, sur le dos dit que je passe, je veux plus qu'on serre ainsi les flancs. Car moi je veux de l'espace où ce qu'est mes allumettes à son au fond de ma panthère. Ah, je ferai bien reculer aux poissons. Allez, mange terre. Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot. À cette heure n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerait demain? Il y avait dans le temps un bio grand chemin. Cheminot. À cette heure n'est pas plus grand que ma main.